Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap à Cap avec Serge Regour. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors ce jour, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui a une activité frénétique et qui se multiplie dans de nombreux domaines, mais des domaines qui ont tous quand même un lien commun, un lien avec la culture. Je l'avais reçu il y a quelques mois pour un remarquable ouvrage qui s'appelle SOS Culture aux belles éditions indigènes. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, il vient de nous parler de son petit dernier, coécrit avec Alain Stouvenel. Ça s'appelle « L'ABC des acteurs et des actrices du cinéma français et de la télévision ». Précision, c'est le tome 1, donc nous allons en avoir d'autres. On va évoquer ce livre. Bonjour Serge Regour.
Bonjour.
Une question bête d'entrée là. Pourquoi vous l'avez intitulé l'ABC des acteurs et des actrices du cinéma et pas l'ABC des actrices et des acteurs du cinéma? C'est très, ça aurait été plus tendance, non?
Et alors c'est une très bonne question parce que le titre qui avait été retenu par l'éditeur, c'était précisément celui que vous évoquez, c'est-à-dire actrice avant acteur. Mais par ordre alphabétique, il me semblait que le E venait avant le R. Donc moi je ne suis pas très tendance de ce point de vue-là, c'est-à-dire que l'ordre alphabétique me paraissait ne pas justifier une entorse. Donc voilà.
Écoutez, ça se comprend parfaitement, je vous entends. D'autant mieux que nous sommes de la même génération, donc ça facilite ce type de compréhension. Alors Alain Stouvenel est votre co-auteur, on peut peut-être dire un mot de lui?
Alors c'est un peu compliqué, d'abord je dois dire que sans lui ce bouquin n'existerait pas, dans la mesure où je ne suis pas à l'initiative. Vous avez évoqué tout à l'heure mon activité frénétique, c'est ce que pense mon épouse, bon, je pense que c'est un peu exagéré, mais en tout cas une activité un peu soutenue. Et il y a quelques temps de cela, ce monsieur, donc, je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, c'est ça qui est étonnant, m'a appelé. Il a un site qui s'appelle « Base de données du cinéma français », dans lequel il réalise un travail de fourmi cinéphilique, où il y a, comme son nom l'indique, un recensement, une recension de tous les films français, avec les fiches techniques, les acteurs, les réalisateurs, les techniciens, etc. Et il souhaitait en tirer un bouquin, ou plus exactement une série de livres sous forme d'anthologie. Et donc il avait lu mes précédents ouvrages, puisque j'ai consacré plusieurs ouvrages aux acteurs, notamment un ouvrage qui a très bien marché qui s'appelait « Les seconds rôles du cinéma français ». Alors, vous voyez, le sous-titre déjà il y a quelques années, c'était pas « Gloire et... » Enfin, peu importe. Vous voyez, il y a un sous-titre, mais ça date de 10 ans. Grandeur et décadence, voilà. Je cherchais le sous-titre, c'est Grandeur et décadence, qui était un essai, je peux le dire maintenant à la distance, assez ambitieux, puisque le propos, c'était d'essayer de comprendre l'évolution du cinéma français d'un point de vue politique, économique.
Ah, c'était sur le cinéma, c'était pas sur la vie, par exemple, de l'ancien chef de cabinet de M. Sarkozy,
C'était les seconds rôles du cinéma français, Grandeur et décadence, parce que je partais du point de vue que pendant très longtemps, les seconds rôles, à l'époque de ce qu'on appelait l'âge d'or, précisément des seconds rôles, pour aller vite, des années 30, début du parlant, jusqu'à la césure de la nouvelle vague, des années 50, fin des années 50, les acteurs type Noël Roquevert, Pierre Alarquet, Saturnin Fabre, Pauline Carton et tellement d'autres étaient des gens très connus, d'ailleurs c'est eux qui restent de cette époque-là, et que progressivement, les seconds rôles avaient disparu. Après, Grandeur, la décadence, alors ça s'est fait en plusieurs étapes, et mon propos était précisément de voir si la place faite aux acteurs était éventuellement une porte d'entrée pertinente pour comprendre les évolutions du cinéma, y compris du point de vue des scénarios, des orientations politiques, des thématiques, etc. Et évidemment, ma réponse était une réponse en effet politique, et que, en gros, une phrase que je disais, c'est que, ben, en gros, pendant les années de gloire des seconds rôles, le lieu mythique, c'était le bistrot, et que aujourd'hui, le lieu mythique, c'est le salon bourgeois. Et que lorsqu'on passe du bistrot au salon, on vire les personnages secondaires, par définition, on vide, on vire le populo, et on garde effectivement que des têtes d'affiche, que des protagonistes, c'est-à-dire que des acteurs bankable. Et du coup, les acteurs sont devenus une griffe dans une logique de pur marché, indépendamment de leur qualité artistique. Et donc, je procédais en trois étapes pour essayer de comprendre cette évolution d'un point de vue, encore une fois, politique et économique. Et notamment la dernière partie, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est le tout marché qui démarre avec la chute du mur. Hein. Il ne faut pas craindre de le dire. Et à ce moment-là, il n'y a plus de contre pouvoir, au sens où il n'y a plus de contre-modèle, et dont le capitalisme, le libéralisme peuvent aller bon train. Et du coup, par rapport à la dichotomie de Malraux quand il disait « le cinéma c'est un art mais c'est aussi une industrie », en fait c'est l'inverse aujourd'hui, c'est d'abord une industrie, même si c'est par ailleurs un art. Et du coup, comme les seconds rôles par définition n'ont pas de valeur marchande, on n'en a pas besoin, on les vire. Bon. Et donc, beaucoup de cinéphiles avaient lu ce bouquin, je dois dire d'ailleurs j'étais très agréablement surpris, parce que en termes d'édition, à l'époque, on a vendu plus de 6000 exemplaires, ce qui, dans le domaine des livres deux ou trois autres, notamment un petit bouquin chez Séguier qui s'appelait L'éloge des seconds rôles, qui m'avait valu à l'époque le prix du pamphlet. Pour moi, c'était pas un pamphlet, mais bon, peu importe. Et donc, il me dit, voilà, on a ce projet, est-ce que vous accepteriez, pour une anthologie des acteurs, de rédiger les notules d'une quarantaine de personnes.
Et parce qu'il y en a 900, j'ai vu quand alors, même, c'est un 900. Travail colossal.
Alors moi, et au
nous sommes quand on meurt.
Il n'y a que les trois premières lettres de l'alphabet.
Oui, ça va vous mener loin la suite.
Oui, c'est comme m'a dit un journaliste l'autre jour, c'est un projet de vie.
Enfin, oui, quand on sera à la lettre Z, on se retrouvera devant ce micro tous les deux, mais on ne sera pas jeunes.
Je ne sais pas dans quel état nous serons. Non, mais ce qui pose un autre problème, c'est éventuellement d'élargir les collaborations. Là, pour l'instant, tous mes loisirs, la totalité de mes loisirs hors de l'émission politique, c'est l'élaboration du tome 2. Mais pour revenir à la genèse, donc il me dit, est-ce que vous accepteriez de faire quelques entrées? Donc, je dis oui, pourquoi pas, ça me rendre compte de ce dont il s'agissait. Et donc il m'a envoyé la liste de la lettre A. Et là, évidemment, je suis tombé de ma chaise, parce que j'ai vu ce qui était effrayant et en même temps très séduisant, qu'il y avait des gens dans la lettre A qui étaient même pas des seconds rôles, qui étaient des tout petits rôles, ce qu'on appelle traditionnellement des utilités. Et donc, ça m'étonnait, ça m'effrayait, mais en même temps, je trouvais ça formidable. Et donc, je reçois la totalité de la lettre A, et là, je vois qu'il y a un problème d'écriture tout à fait calamiteux, puisque c'est pas du tout leur faire offense, puisque j'en ai parlé librement. Voilà, c'était pas conciliable. Et donc, j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte? Et là, il me dit, oui, ben moi, j'ai toute l'iconographie, j'ai toutes les photos, essentiellement des captations d'écran, sur DVD, etc. Dans l'iconographie, ça, je maîtrise. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas appris à écrire, on n'a pas appris à faire les synthèses. Et donc, c'était plutôt des témoignages disant, oui, j'ai vu un tel dans telle émission, j'ai beaucoup aimé, etc. Bon, ça n'avait aucun intérêt, c'était pas possible. Et donc, je dis, mais voyez, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible. Et là, il me dit, oui, mais on le savait. Il me dit, voilà, en fait, la seule solution, c'est que vous acceptiez de tout écrire.
Ah oui, quand même.
Et donc, d'ailleurs, le bouquin, c'est tout à fait signalé ainsi.
Ça veut dire que vous avez fait les 900 notules.
J'ai tout écrit, tout seul. C'est dit comme ça. Je lui ai crédité quant à l'iconographie. Et moi, j'ai fait 900 textes. Qui est en cours, sont plus difficiles parce qu'il faut faire une synthèse. Quand on a la filmographie des acteurs, il faut choisir, puisque en gros, il y a 10 lignes par personne. même pas parfois moins, et donc il faut faire une synthèse, il faut tout revoir, et il faut que le lecteur puisse éventuellement, ah oui je l'ai vu dans tel film, c'est-à-dire choisir des films qui ne sont pas nécessairement ce que les acteurs eux-mêmes, si c'était là, auraient choisi comme de plus représentatifs pour eux, mais des films qui puissent parler à l'imaginaire du cinéphile.
Je vous connais depuis longtemps, puisque vous fûtes dans mes jeunes années, très jeune, mon premier assistant à l'université, mais je ne vous imaginais pas moine bénédictin. Beaucoup de choses, mais pas moine bénédictin.
Ah, mais là, c'est. Oui, c'est un peu ça. Non,
mais c'est colossal comme boulot.
C'est un peu ça. Et en même temps, c'est la première fois que j'ai ce sentiment, parce qu'à un moment, j'ai hésité. Et j'étais dans un festival au titre de la région, et j'ai croisé un grand professionnel qui s'appelle Dominique Besnéard, qui est oui. L'un des personnages les plus emblématiques que je connais depuis pas mal de temps. Et c'était le moment où j'hésitais, et je lui ai dit, voilà, en fait, je risque de m'embarquer. Et Dominique m'a dit, il faut absolument que tu le fasses. Et il me dit, moi, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'attendais toujours qu'un tel livre sorte, parce que j'adorais des gens, je ne savais pas qui ils étaient, et j'aurais aimé qu'il y ait une anthologie des acteurs.
Mais là, vous êtes remonté jusqu'à quand ?
Je pars du parlant, 1930. C'est-à-dire que j'ai évacué tous les cinémas muets qui, initialement, devaient être pris en compte par le premier initiateur, qui, encore une fois, je dois lui rendre hommage, il n'a pas écrit une ligne, mais sans lui, il n'y aurait pas eu de bouquin. Puisque moi, je n'aurais pas eu l'initiative, et je n'aurais jamais eu ce courage qui est une forme de folie. Donc, il m'a entraîné, disons qu'il est collaborateur. Après, moi, j'ai voulu, pour des raisons qui sont d'évidence, qui font partie de mon éthique, qui sont crédités comme auteurs au même titre, parce que, j'allais dire, c'est presque un choix d'ordre politique sur lequel je pourrais revenir quant à la manière dont on a traité les acteurs. Mais pour revenir donc à l'aboutissement du projet, Dominique Besnéard me dit « il faut le faire ». Et je lui dis « mais est-ce que tu ferais la préface ?» Et il me dit « aucun problème, fais-le ». Et quand tu es prêt, je ferai évidemment la préface. Et ce qui est le cas. Donc il a fait la préface, qui était évidemment un atout en termes de crédibilité ou de légitimité pour le livre. Mais donc, c'est un travail considérable, mais qui, encore une fois, correspond à ce que nous disions tout à l'heure. En termes, pardon, c'est du langage marxiste, mais c'est ça me convient, de praxis, c'est-à-dire que plus je vieillis et plus je sais que il faut tenir à la fois le dire et le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conceptuel sans opérationnel et pas d'opérationnel sans conceptuel. Comme Jacques, bon, on peut se le dire, puisque nous sommes à l'origine tous les deux juristes, je suis de plus en plus frappé. En droit, il y a d'une part ce qu'on appelle les motifs dans une décision jurisprudentielle, et d'autre part les dispositifs. Et moi, ce qui me frappe de plus en plus, c'est que les deux sont dissociés. C'est-à-dire que dans la sphère politique, on invoque des motifs, des principes, des fondements, mais quand on en est au dispositif, c'est-à-dire à la mise en œuvre effective, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune cohérence, il n'y a plus aucune articulation, aucune filiation avec ce qu'on a présenté comme principe fondateur. Je vais donner un exemple, parce que ça m'a frappé à l'université, où je fais encore ponctuellement des cours. Alors, ça n'a rien à voir avec les acteurs, mais c'est pour étayer mon propos. C'est au moment de la crise des migrants à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne. Et donc, je demande aux étudiants, en Master 2, donc en S5, un peu de bouteille, qu'est-ce que vous pensez de manière générale de la problématique des migrants, etc. C'est une question très controversée, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle qui s'annonce. Et de manière quasi unanime, évidemment, les gens de cette génération ont un sentiment, j'allais dire, bienveillant, c'est-à-dire favorable, effectivement, à l'accueil des migrants, à l'accueil des immigrés, dont, selon des valeurs, disons, humanistes, traditionnel. Très bien, j'enregistre. Et je leur dis, allez, alors maintenant concrètement, ça c'est encore une fois ce qu'on appellerait les motifs, de manière générale, abstraite, on est pour l'accueil. Et là j'en viens à un cas précis, une illustration, ce qui se passe à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Et là, même unanimité, nous défendons les Polonais contre l'horrible dictateur biélorusse. Sans se rendre compte une minute qu'il y a une contradiction frontale, je leur dis, vous êtes pour l'accueil des immigrés, et la Pologne, que fait-elle? Elle refuse de les laisser entrer, et elle se propose même de construire un mur pour les empêcher de rentrer. Et celui qui, à l'inverse, pour des raisons X, peu importe, leur a permis de rentrer, leur a délivré des visas, c'est précisément Loukachenko, et que vous considérez comme un dictateur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la cohérence de votre perception intellectuelle? Et là, les plus éveillés d'entre eux me disent, mais incroyable, c'est vrai, vous avez raison, mais oui, mais bon, on gobe tout, etc. Et dit oui, parce que comme c'est un dictateur, on est du côté de la démocratie. Je leur dis, ça veut dire que si la démocratie devient tyrannique, ça vous va. Et si une dictature devient libérale, elle reste une dictature. C'est ça que vous m'expliquez. Et là, ils me disent, ah oui, les mots sont piégés, etc. J'ai dit, oui, mais vous voyez, le béaba quand même de la perception du monde, c'est essayer autant que faire se peut d'organiser une cohérence entre les principes qu'on est supposé servir et la manière de les mettre en œuvre. Et alors là, je reviens à la question des acteurs. Comme dans à peu près la même période, j'écrivais le petit livre que Jacques connaît, SOS Culture, qui se situe au niveau de prise de position politique, j'allais dire de principe, de fondement, décliné dans le domaine de l'industrie cinématographique. Ça pose effectivement la question notamment des hiérarchies artistiques, de voir qu'est-ce qui relève de l'artistique et qu'est-ce qui relève du marché, etc. Et il n'y a pas de doute, ce que je disais tout à l'heure, sur le terrain des acteurs, il y a des gens qui représentent des logos, des griffes, des valeurs, ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai défini ainsi, des acteurs bankable, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire des acteurs qui sont là pour apporter de l'argent. Mais comme la plupart, notamment des médiateurs, des journalistes, etc., n'ont strictement aucune culture, c'est une chose, mais aucune curiosité, ce qui est plus grave, c'est qu'ils confondent de grands acteurs avec acteurs de talent. Et là encore, je veux illustrer mon propos. Il y a très peu de temps, j'écoute tous les matins France Inter. Et il y a une nouvelle série, que d'ailleurs je n'ai pas vue, à la télévision, qui s'appelle Le Code, je crois. Et j'entends cette interview assez étonnante, où la journaliste dit au réalisateur, qui est venu présenter la série qui commençait le soir, mais en fait, il n'y a pas de grands acteurs dans votre série. Est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce que c'est par défaut? Alors évidemment, le réalisateur, comme il était là pour la promo, ne pouvait pas l'envoyer promener. Et donc, il a dû faire un numéro d'équilibre, etc. Mais la première question, c'est est-ce que les acteurs sont bons ou est-ce qu'ils ne sont pas bons? Mais grands acteurs dans la bouche du journaliste, ça voulait dire tête d'affiche. C'est-à-dire que s'il y avait M. Arditi, c'est évidemment un grand acteur, parce qu'il est connu, ou Depardieu, ou qui on voudra, donc ça pose pas la question. Mais dès qu'on a un acteur qui n'est pas connu, et qui éventuellement est un immense acteur de théâtre, mais qui éventuellement n'a pas trouvé place dans l'industrie cinématographique, le médiateur dit que ce sont pas des grands acteurs. C'est-à-dire que pour, évidemment, le téléspectateur ou l'auditeur moyen, il entend c'est pas des grands acteurs, bon voilà, c'est un petit truc, quoi. C'est pas des bons. C'est pour ça que, dans le traitement de l'ouvrage, tous les acteurs sont traités rigoureusement de la même manière. C'est-à-dire une photo rigoureusement tous du même format, aussi bien s'agissant d'une star, puisque à la lettre B, il y a des gens comme Brigitte Bardot, évidemment, mais elle est traitée exactement comme des acteurs inconnus au bataillon, qui, de mon point de vue, d'ailleurs, méritent davantage d'explications. Parce que Bardot, à la limite, tout le monde sait qui elle est, il n'y aurait même pas besoin d'avoir une notule explicative. Tandis que précisément pour des acteurs beaucoup moins connus, il lui fallut plus de textes. Mais quand l'éditeur, au départ, m'a dit, mais enfin, on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière, il y a des gens qui devraient avoir une page et d'autres un paragraphe. Il dit, non, ça c'est pour moi, la praxis, ça c'est pas négociable, sinon je ne fais pas le bouquin. Le seul truc qui m'intéresse, c'est précisément de traiter tous les gens de la même manière, c'est-à-dire ils font tous le même métier, ce sont tous des acteurs, et après il y a toute une série d'éléments qui font que les uns effectivement seront reconnus plus ou moins au cinéma, se verront attribuer des rôles importants, et quand on est un vrai cinéphile, c'est précisément le moment où le projecteur doit être mis sur éventuellement les moins connus, ou d'autres dont on connaît les visages, ça a souvent été dit, pour le second rôle, on connaît ce visage, mais on ne sait pas mettre un nom dessus. Et c'était ça un peu le projet du livre.
Serge Rougourd, j'ai parlé des auteurs, du titre, du tome 1, il y a une, et vous venez de l'évoquer, il y a quelqu'un que je n'ai pas cité, c'est l'éditeur qui est...
Alors, l'éditeur, ça aussi c'est un choix qui correspond exactement à mes valeurs, c'est la même chose. L'éditeur, c'est un autre regard, c'est un éditeur qui est à Albi, dans la région, et c'est un choix délibéré parce que, par d'autres biais, j'aurais pu avoir un éditeur, entre guillemets, national. Or, je venais de faire l'expérience d'un éditeur remarquable au plan régional de la région Occitanie, qui est les éditions indigènes. Il y a des éditeurs comme Au Diable au Vauvert, qui, à mon avis, font un travail remarquable.
C'est pas moi qui vous dirais le contraire.
Donc, et il se trouve que je suis par ailleurs président de l'agence du livre en Occitanie, et donc il eût été un peu curieux que j'essaie de trouver l'éditeur hors la région. Et là encore, question de praxis, moi j'en ai marre d'entendre des gens me bassiner sans arrêt avec la décentralisation, les territoires locaux, etc. Mais dès qu'il y a un événement d'envergure, on va immédiatement chercher de grandes figures parisiennes pour les mettre en tête d'affiche, et on réduit éventuellement les locaux à des seconds rôles. Or, là aussi, c'est un problème de cohérence, dont je me suis dit, mon postulat, alors que j'ai cité tout à l'heure Dominique Besnéard, et Dominique m'avait dit, il n'y a pas de problème, je trouverai un éditeur, je ne vais pas le citer, mais bon, il y avait un éditeur parisien qui avait acté l'idée qu'il pourrait publier ce livre. Et donc après, j'ai essayé de voir qui avait déjà manifesté un intérêt pour le cinéma. Et je ne le connaissais absolument pas. Et j'ai vu que cet éditeur, donc, qui s'appelle Un autre regard, Albi, avait déjà publié plusieurs bouquins remarquables sur le cinéma, notamment de mon point de vue, la meilleure biographie de Daniel Darieux, ce qui n'est pas rien, avec une iconographie formidable. Un bouquin qui est, à mon avis, la seule biographie d'acteur qui relève de la littérature, qui s'appelle Waiting, son nom m'échappe à l'instant, qui est la fille de Jean-Pierre Aumont, qui est Tina, Waiting Tina, c'est-à-dire En attendant Tina, qui est une biographie du Tina Aumont, qui est une comédienne qui a mal tourné, puisqu'elle a sombré dans la drogue, etc. Et l'auteur, Jean Azarel, a fait une bio qui, curieusement, est d'abord un roman, et qui est écrit comme de la vraie littérature. Enfin bref, du coup, je me suis dit, je vais demander à cet éditeur si ça l'intéresse. Et je me suis dit, quand je lui dirai qu'il y aura plusieurs tomes, il va y regarder à deux fois. Et en fait, de notre premier entretien, il m'a dit, mais il y aurait combien de tomes? Je lui ai dit plusieurs, je n'osais pas chiffrer. Et il m'a dit banco tout de suite. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Alors en même temps, je dis tout. Parce que, comme dit un de mes collègues à la région, Rougourd, il parle sans filtre. Ce qui est à la fois un compliment et un gros défaut.
Pas toujours.
Si, parce que là, en l'occurrence, je lui ai fait perdre, par exemple, la possibilité d'avoir un soutien de la région. C'est-à-dire qu'évidemment, il y aurait un risque de conflit d'intérêts
si la région ou
l'agence du livre finançait, puisque je souligne ici que aussi bien la région que l'agence du livre finance à la fois les éditeurs et les auteurs sous forme de bourse d'écriture, c'est hors de question pour moi. Mais par contre, il y a des financements importants pour les éditeurs. Et du coup, lui, il pensait évidemment présenter une demande d'aide, comme le font tous les éditeurs. Mais là, il y avait un risque de conflit d'intérêts, et donc je lui ai fait un peu un cadeau pour partir un peu empoisonné.
Un peu empoisonné. Nous faisons une pause musicale, Serge Rougourd. On écoute et après, vous nous direz ce qu'on a entendu.
Para
Qu'est-ce qu'on a entendu, Serge ?
Alors, il faut dire que moi, je suis un fou des Balkans, du cinéma des Balkans et de la musique des Balkans, et dont, en l'occurrence, Emir Kusturica, qui pour moi est l'auteur de toute une série de chefs-d'œuvre, hein, comme Underground, Papa est en voyage d'affaires, Chat noir, chat blanc et bien d'autres choses. Au début, avec comme musicien Goran Bregovic, et puis les tempéraments balkaniques, c'est qu'on se fâche très vite. Donc, ils sont fâchés.
C'est balkanique ou volcanique ?
Les deux. Balkanique, c'est volcanique. Et donc, voilà, c'est pour moi, j'avais demandé cette pause musicale dans la mesure où je pense que vraiment j'ai un tropisme balkanique, parce que quand je suis dans ces pays en particulier, je dois le dire, en Serbie, j'ai l'impression que c'est un autre chez moi. Depuis la guerre des Balkans, j'y vais beaucoup. Et cette musique correspond, voilà, je ne peux pas l'expliquer, elle correspond à ma sensibilité, parce qu'à la fois, il me semble, moi, ce que j'entends, c'est à la fois de la nostalgie, de la démesure, de l'espoir, il y a une forme de romantisme, bon voilà, et tout ça me touche, et je me permets de dire, puisque vous m'avez fait l'amitié de passer cet extrait, que ce dont personne ne parlera évidemment, c'est que quand vous êtes le week-end, le samedi, à Belgrade, dans les restaurants qui se touchent tout au long du Danube, se retrouvent dans ces restaurants l'ensemble des anciennes communautés qui se sont fait la guerre, c'est-à-dire que les Slovènes viennent à Belgrade, parce que, pour parler clair, ils s'emmerdent, ils se font chier en Slovénie, les Croates, pas tous évidemment, certains, ils sont des classes moyennes ou supérieures, ou des artistes, etc., et tous ces gens, des Croates, des Slovènes, etc., des Hongrois qui se sont fait la guerre, les Hongrois de la minorité de Voïvodine, et tous chantent et se retrouvent autour précisément des musiques de l'époque de l'ex-Yougoslavie, où à l'époque, ben, ils étaient tous yougoslaves. Et ça m'a complètement, la première fois, étonné, fasciné. Et chaque fois que je vais à Belgrade, je veux, et d'ailleurs on m'y amène de manière spontanée, parce qu'il y a une espèce, c'est peu compréhensible pour nous, de fraternité entre des gens et personne, enfin, je n'ai jamais vu de documentaire là-dessus, et pour moi c'est un vrai sujet. Ces gens, alors pas eux nécessairement personnellement, mais en tout cas leur communauté se sont fait la guerre de manière extrêmement cruelle, et se retrouvent autour d'une nostalgie de l'ex-Yougoslavie qui s'exprime par les chants, par la musique et par cette ambiance-là. Et ça, c'est très très étonnant.
Comment le juriste que vous êtes, l'universitaire, aujourd'hui vous êtes président de la commission culture et audiovisuel du conseil régional d'Occitanie, qu'est-ce qui vous a attiré autant dans le cinéma ? Pourquoi être allé dans, vous auriez pu aller dans l'opéra, vous auriez pu aller sur la peinture, sur l'écriture, pourquoi vous être consacré aussi pleinement ? Parce que là on a compris que vous aviez attaqué une mission qui va vous tenir des années, qu'est-ce qui vous a amené à vous braquer sur cet art, sur le septième art.
Alors, je vais dire, je pense très honnêtement et très humblement en même temps, alors là, je suis un peu dans les déterminismes bourdieusiens, je suis né dans un village, à la Guépie, où la question, évidemment, d'un certain nombre de pratiques culturelles ou artistiques ne pouvait pas se poser, mais lorsque j'étais enfant, il y avait un cinéma qui fonctionnait uniquement le week-end, c'est-à-dire les séances du samedi et le dimanche. Et pour les gens de ma génération, la télé est arrivée à peu près dans cette période-là. Et ce cinéma, je le vis comme si c'était hier, j'étais tout môme, et j'ai vu évidemment tous les films, parce que tous les samedis et tous les dimanches me permettaient, j'étais un très bon élève, donc tout le monde, mes parents me laissaient aller au cinéma. De toute façon, ma mère tenait un café-restaurant, donc son emploi du temps ne lui permettait guère de s'occuper de moi au quotidien, et mon père était à la fois engagé politique et responsable national syndical, dont j'étais un peu, pas livré à moi-même, parce que j'avais une vraie famille, mais j'avais de la liberté. et mon temps de respiration, c'était le cinéma. J'allais négocier tout môme. Vous savez, à l'époque, on affichait dans les cinémas les photos et un certain nombre de... on punaisait qu'on appellerait ça aujourd'hui, parce que ça n'existe plus en tant que tel, mais des flyers avec les synopsis, avec les photos des acteurs. Et alors que je n'avais pas le droit, évidemment... j'achetais les revues de cinéma en cachette, Ciné-Revue et Ciné-Monde, parce que très souvent la première page c'était des starlettes à moitié dénudées, donc je trouvais des gens plus grands que moi pour aller l'acheter, parce que c'était presque acheter un truc pornographique, alors ce n'était pas du tout, c'est même pas érotique, mais bon, souvent la couverture, et donc voilà.
Elle était suggestive, on va dire.
Voilà. Et donc dès cette époque-là, ce qui m'a intéressé, c'était ce dont on ne parlait pas. C'est-à-dire ce qui était dans l'ombre très très vite, parce que pour moi, les premiers rôles n'avaient aucun mystère. C'est-à-dire c'était des choses connues. Et donc, il n'y avait pas de curiosité à avoir. On ne peut pas être curieux de choses qui sont étalées. Par contre, on est curieux de ce qui est à l'arrière-plan. Et donc, voilà, c'est le cinéma, c'est venu comme ça.
Et pourquoi vous n'êtes pas allé pleinement dans le cinéma? Pourquoi avoir choisi, embrasser la carrière juridique? Et alors, vous êtes aujourd'hui, certainement en France, un des meilleurs spécialistes du droit de la communication et de la culture, mais pour autant, vous auriez pu vous consacrer au cinéma plutôt que d'aller vers l'université.
Ça a été une vraie question, et ma réponse est Bourdieu rebelote, parce que je pense que j'étais... issu d'un milieu, disons, de la classe moyenne, puisque mon père était cadre à la SNCF, ma mère était commerçante, et je pense que, en tout cas à une certaine époque, pour s'aventurer dans ces professions, il fallait être soit en haut de la pyramide, soit tout en bas. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas fait de sociologie, évidemment, je dis ça un peu à la petite semaine, mais pour ceux que j'en connais, parce que je connais beaucoup, beaucoup de professionnels quand même. Et soit ils viennent de classes vraiment populaires, Depardieu de ce point de vue-là est assez exemplaire, soit ils viennent vraiment de la bourgeoisie. Mmh. On parle tout à l'heure en aparté de Jeanne Balibar, tous ces gens-là viennent vraiment des classes supérieures. Et moi j'étais dans l'entre-deux, et je pense que c'est dans l'entre-deux où la question de la sécurité est une question centrale, c'est-à-dire que pour la génération de mes parents, la réussite des enfants, pour mon père, c'était que je sois ingénieur, puisque il était d'une période, en plus, bon, il était communiste, sorti de la résistance des FTP, et donc pour lui, être ingénieur, voilà, c'était ça. Et bon, très vite, j'ai vu que j'avais strictement aucune compétence sur le terrain des maths et compagnie. On m'a envoyé faire des études techniques qui se sont, avérées à partir de la quatrième, totalement catastrophiques. Donc on m'a recyclé vers ce qu'on appelait, à l'époque, il y avait les techniques, comme tu sais, le moderne. Donc j'ai appris seul deux langues pendant les vacances, parce que pour passer du technique où il n'y a pas de langue vivante étrangère pour réintégrer une filière dite moderne à l'époque, il y avait deux langues. Moi, je n'avais appris aucune, donc j'ai fait de l'anglais et de l'espagnol pendant tout un été. Et c'était l'époque où je pensais effectivement que le cinéma pouvait être... alors, je pensais plus d'ailleurs réalisation que acteur. Après, j'ai quand même été à la fac de droit en faisant philo à côté avec un projet précis qui était d'être avocat. Parce que je pense que ce qu'il y avait le plus proche pour moi en faisant des études de l'acteur, c'était être avocat. Et donc, avocat, c'était mon vrai projet. Et puis, les choses se sont déroulées de telle sorte qu'on m'a proposé d'être assistant. Et que, alors que j'avais fait des études de droit privé, après je suis passé au niveau de ce qu'on appelait à l'époque les DEA, j'ai basculé en droit public, et voilà, après je suis resté à l'université. D'ailleurs, je regrette rien, hein, je suis très, très heureux.
Comment vous voyez l'évolution du cinéma aujourd'hui? Il y a des évolutions sociologiques, techniques. Vous avez vu cet article du Monde hier qui nous dit que la Chine veut prendre une place de plus en plus importante dans le cinéma et qu'ils veulent même... écarter un peu Hollywood de la scène internationale. Qu'est-ce que vous pensez?
C'est marrant que vous me parliez de ça, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Emir Kusturica, qui a été beaucoup, beaucoup en Chine et à qui, c'est une application concrète, les Chinois ont proposé ce qu'on peut appeler entre guillemets un pont d'or pour réaliser un film en Chine. Et c'est, il me disait, la seule hypothèse, ou alors que rien n'a commencé, le tournant n'a pas commencé, peut-être d'ailleurs n'interviendra-t-il jamais, on lui donnait le nombre de salles de sortie, puisqu'on est dans un système totalement planifié. Et est-ce qu'ils y parviendront? Je pense que ça c'est le débat, parce que je pense que il y a une empreinte très nationale quand même dans les cinémas. Je pense que c'est vraiment une pratique culturelle qui est fondée quand même sur des piliers très nationaux, très spécifiques. Et donc, imaginez que les Chinois puissent être producteurs de films ou de séries qui seraient proprement nationales au sens européen, ça me paraît compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à faire un cinéma européen. C'est-à-dire que Almodovar, c'est pas du cinéma européen, c'est du cinéma espagnol. Ken Loach, c'est pas du cinéma européen, c'est du cinéma anglais. Tanner, c'est pas du cinéma européen, c'est du cinéma suisse. Enfin, je pourrais complètement décliner ça. C'est-à-dire que dans le domaine culturel, je pense qu'il y a des empreintes proprement nationales.
On pourrait parler du cinéma indien aussi, qui ne vit qu'en Inde, parce que c'est regardable par quelqu'un comme...
Exactement, c'est l'exemple d'ailleurs le plus probant, puisque Bollywood, ils ont besoin de personne. Hein. C'est aujourd'hui le pays qui sort le plus de films, et ça n'est comparable à rien de ce qui se fait ailleurs.
Il pourrait y avoir une industrie chinoise du cinéma, mais uniquement à vocation chinoise.
De toute façon, ils ont un public suffisant pour le rentabiliser sans exportation.
Tout à fait, mais si je comprends bien ce que veut faire le dirigeant chinois, c'est des cartes. Enfin, c'est la fameuse guerre qu'a lancée, relancée M. Biden. Alors, est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou le qui a fait la poule, je ne sais pas, mais on veut aujourd'hui damer le pion à Hollywood, très nettement.
Ça, c'est sûr.
Est-ce que la Chine a les moyens de faire un cinéma qui pourrait être regardé dans le monde entier?
Mais c'est là la question et le doute, parce que je pense que la conquête des imaginaires, c'est compliqué. Et en même temps, c'est central. C'est-à-dire que il y a un film qui est très 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 méconnu, qui est sorti il y a quelques années, d'un réalisateur qui vient de tourner d'ailleurs à Toulouse, avec Agnès Jaoui, qui va être la prochaine, qui est depuis hier la présidente de la Cinémathèque de Toulouse.
Vous avoir vu en photo avec elle, je ne sais plus sur quelle gazette.
Que c'est moi qui avais été chercher à l'époque Robert Guédiguian, et après, quand Robert a décidé d'arrêter...
On parle de la Cinémathèque de Toulouse, on ne l'a pas dit, mais une très très belle cinémathèque.
En termes de patrimoine, c'est-à-dire de nombre de films, c'est la première de France.
De France, oui.
Et donc, pour revenir... à ce qu'on disait, le film de Frédéric Socher où joue Agnès Jaoui s'appelle Hitler à Hollywood, et qui est un très beau film avec Micheline Prel et Maria de Medeiros, entre autres, et dont le propos est de montrer comment, en fait, ce dont on ne parle jamais là encore, comment les États-Unis, l'Amérique à l'époque, hésitent avant l'entrée en guerre, parce que l'un des objectifs des États-Unis, c'est effectivement de tuer le système européen. Parce qu'ils pensent, et ils ont raison de le penser, que ce qui est central dans la conquête du monde, c'est la conquête des esprits. Et d'ailleurs, à la fin de la guerre, que dit Roosevelt ? Envoyez les films, les produits suivront. C'est-à-dire, et ça c'est central d'ailleurs, là encore, je ne veux pas jouer dans la cuistrerie, mais... Au moment où la plupart des soviétologues distingués expliquaient que le choix du communisme s'était mis à aller sans retour, il y a beaucoup de livres qui devraient partir à la poubelle aujourd'hui, parce que beaucoup d'auteurs, tous les soviétologues distingués se sont totalement plantés en disant qu'il n'y aurait jamais de retour après l'URSS. Et le seul à l'époque, il y a 30 ans de ça, qui comprend est Régis Debray, qui écrit un remarquable ouvrage qui s'appelle « Les deux empires et l'Europe », où il montre qu'il y a un empire faible, qui est l'empire soviétique, et un empire fort, qui est l'empire américain, parce que précisément le second, en l'occurrence, les États-Unis, ont compris qu'il fallait d'abord conquérir les imaginaires, les esprits. Et ils le font par le cinéma hollywoodien. Et c'est à partir de là que, ben, à partir des djinns, du coca, d'Hollywood Chewing-Gum et de tout ce qu'on voudra, la conquête des imaginaires a réduit les individus dans un état que, là encore, Debré reprend la marque, s'appelle l'état d'aliénation, c'est-à-dire les gens qui me paraît aujourd'hui être la caractéristique majeure de la situation dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire le moment où les gens ne sont plus capables de discerner ce qui est leur propre intérêt. Et pour parler clair, dans un pays dans lequel il y a 30% des gens qui s'expriment en faveur de l'extrême droite et que la gauche est réduite à 20% dans les sondages, c'est typiquement le concept marxiste d'aliénation, c'est-à-dire les gens ne savent plus quel est leur propre intérêt. C'est-à-dire, en quelque sorte, sacrifient leur devenir à des principes qui leur seront totalement contraires et qui vont leur revenir dans la poire comme un boomerang.
Les amis en mesure de savoir où est leur intérêt, autrement dit, est-ce que l'éducation nationale, à un moment ou un autre, n'a pas péché ? Est-ce qu'elle ne fabrique pas aujourd'hui des producteurs et des consommateurs uniquement ?
Mais nous sommes totalement d'accord. Mais totalement d'accord. C'est-à-dire que moi, je prends le problème à la fin en termes de constat, mais effectivement, l'explication est exactement celle qui vient d'être indiquée. Alors, c'est l'éducation nationale et c'est tout ce qu'il y a autour. Tout ce que Gramsci appelait la société civile, et d'ailleurs, il y a un détournement de sens complet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la société civile, c'est des gens comme moi qui ne sont pas encartés. Or, ce que Gramsci, à l'époque, définit comme la société civile, c'est de montrer que le capitalisme, en réalité, ne sera plus essentiellement fondé sur les appareils d'État traditionnels répressifs, du type la justice et la police, mais par des logiques qui sont celles de la société civile, au premier rang desquelles les médias. Et Gramsci montre ça de manière lumineuse, mais à la limite, on pourrait trouver les racines déjà beaucoup plus tôt dans les écrits de Tocqueville, quand il étudie de la démocratie en Amérique. Il dit que bientôt, on n'aura plus besoin de brûler les livres parce que personne ne pensera plus à les écrire. Et c'est Tocqueville qui écrit ça.
Oui, mais Tocqueville a été un précurseur. Si on relit Tocqueville aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'enseignements.
Dans les domaines qui nous occupent, Tocqueville qui est présenté là encore, mais ça c'est l'espèce d'instrumentalisation. On ne retient que le libéralisme de Tocqueville. Or, c'est un penseur essentiel sur la question de la société. Absolument. Et des trous de la raquette de la démocratie. Et lorsqu'il montre comment effectivement toute une série de ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias, c'est-à-dire les intermédiaires, font que la démocratie devient un mot creux, il tire la sonnette d'alarme de la démocratie en Amérique. Il montre quoi ? Il montre que c'est tout, sauf ce qu'on est convenu d'aujourd'hui d'appeler la démocratie.
Et le système technologique qui s'impose au monde entier, ce qu'on appelle la tech aujourd'hui, contribue grandement à ça.
Bien entendu.
Et d'ailleurs, je vous renvoie, j'aime bien le citer, j'en parlais tout à l'heure hors micro, à l'Apocalypse cognitive de Gérald Bronner, que je recommande, et si quelqu'un n'en est pas satisfait, je le rembourse d'ailleurs. Je m'engage. Hein.
Moi, il est sur mon bureau, je confesse de ne pas l'avoir lu, puisque
il
c'est Jacques
faut,
qui m'en a parlé au début, lorsqu'est sorti mon petit livre SOS Culture. Mais je vais le dire, mais je suis sûr que c'est fondé, j'en suis sûr.
Ah oui, vous allez voir. Alors justement, vous venez de le citer, moi j'aimerais qu'on en reparle un peu de cette SOS Culture aux éditions indigènes, excellent cadeau qui ne vous ruinera pas 5 euros, hein, c'est quand même modeste, mais si je puis dire, on en a pour son argent. Quand vous l'avez écrit, quel était votre propos ?
Ah ben là aussi, je dois reconnaître que je ne suis même pas à l'initiative, les initiateurs du projet... C'est Indigène Édition, c'est-à-dire les éditeurs, qui m'ayant entendu dans des débats, dans des conférences, etc., m'ont proposé un livre sur la culture. Et en fait, moi j'étais à ce moment-là au confluent de trois, eu égard à mon âge, de trois expériences successives mais totalement convergentes. Une expérience d'universitaire, puisque je dirigeais des diplômes à l'université autour de la culture. J'avais créé notamment un master autour de l'administration des activités culturelles. Première strate, deuxième strate, c'était une strate purement citoyenne ou individuelle, mais en même temps de militants, puisque j'avais beaucoup travaillé avec Jack Ralit dans le cadre des États généraux de la culture. Et la troisième expérience, c'était ma petite expérience politique à la région, voir comment on traitait les dossiers, etc. Et de la convergence de ces trois éléments, pour moi, le constat était celui de l'absence de politique culturelle, entendu au sens de l'État, au sens du ministère de la Culture. Et donc mon propos était de dire que dans une société aujourd'hui en crise d'ailleurs d'identité, et de délitement de ce qu'on appelle le lien social, la question culturelle devenait centrale à un moment où il n'y avait plus de politique culturelle. Et donc c'est une forme de SOS en disant qu'il fallait absolument réarticuler la figure du politique et de l'artiste, parce que pour moi, l'idée même de la civilisation et de la démocratie contient évidemment un élément central culturel, ou qu'en gros, de mon point de vue, le liquide amniotique dans lequel on peut faire vivre la démocratie, c'est la culture.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette société où tout le monde s'oppose, où on est un peu éclaté, est-ce que par la culture, on n'arriverait pas à ramener un peu, à refaire société ?
Ah ben moi, c'est ma conviction profonde.
On est d'accord.
D'ailleurs, peux-tu ? Sans angélisme. C'est-à-dire, j'en mesure les limites, les écueils, les difficultés. Mais c'est comme un chemin difficile dont on se dit, ça va être compliqué parce qu'il est... Il est dangereux, il faut pour partie le tracer, mais c'est le seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est que dans toute une série de zones, et moi je connais à la fois la ruralité très bien, puisque j'y suis né, et des quartiers difficiles, je pense que le lien culturel, et notamment la question de l'acclimatisation culturelle et des pratiques artistiques, est un élément fondamental dès le début de la scolarité, c'est-à-dire dès le primaire. C'est là que tout se joue, de mon point de vue. Et donc j'en profite, puisque l'on a dit un mot de la région, que dans deux jours va être votée à l'Assemblée plénière de la région la nouvelle stratégie culturelle, et donc je suis très heureux que de tels éléments aient pu être pris en compte, c'est-à-dire la question du jeune public mis vraiment au premier rang, alors que moi j'ai étudié le budget au-delà de l'Occitanie, de la plupart des grandes institutions culturelles, en particulier dans le spectacle vivant, les politiques jeunes publics sont secondaires lorsqu'elles ne sont pas purement et simplement marginales. Or, à mon avis, il faut qu'elles deviennent essentielles. De la même manière qu'il y a un projet de loi sur la décentralisation qu'on appelait les 4D à l'époque, qui a changé plusieurs fois, le projet continue de naviguer, mais qui permettrait, à titre expérimental, dans des régions, des collectivités qui accepteraient de jouer ce jeu-là, d'introduire des enseignements artistiques et culturels dès le début de la scolarité, que nous voulons traduire en termes, pas seulement d'enseignement, mais de pratique.
Alors notre région est en pointe sur cette réflexion, c'est une bonne chose, on n'en doutait pas. Par contre, si vous écoutez le débat aujourd'hui dans la vue de la présidentielle, personne ne parle de culture. On va nous parler d'immigration, on pourra en parler ici certainement tous pendant des heures. On nous parle de sécurité, on nous parle d'identité, mais de culture, jamais.
Personne.
Est-ce que ça veut dire que les hommes politiques n'ont aucune culture ? Un peu, oui, quand même. Hein. Ils n'en ont pas beaucoup, semble-t-il.
Ben, c'est-à-dire que...
Vous qui les fréquentez plus que moi.
Oui, mais moi, j'allais dire, j'ai le... Alors, ça peut paraître un peu téléguidé, mais j'ai le petit privilège, en tout cas, si je parle de la... Parce que aujourd'hui, ne dissimulons pas, je parle là encore sans filtre, nous vivons globalement dans une société monarchique. C'est vrai au niveau de l'État, mais du coup c'est vrai en termes de déclinaison au niveau des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que tout est organisé autour du cœur, c'est-à-dire du maire, du président du conseil départemental régional ou du patron de l'intercommunalité. Et ce qui compte autour, c'est pas critique, c'est un constat. C'est le cabinet et le DGS, le directeur général des services. C'est évidemment pas les assemblées. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'enseignais à la fac, je disais à mes étudiants d'aller assister à une séance du conseil municipal, puisque c'est normalement public, et on voit de suite qu'est-ce qui est important entre l'exécutif et le délibératif. C'est-à-dire que dans les représentations politiques, l'exécutif émane du délibératif, dont on peut imaginer que c'est le délibératif qui est essentiel. En réalité, c'est pas le cas. Or, il se trouve que, pour ce qui nous concerne en Occitanie, pour des raisons X qui sont trop longues à expliquer, Carole Delga a une vraie sensibilité, une vraie curiosité à l'égard de la culture. Et chaque fois que, dès le début du précédent mandat, lorsque j'ai évoqué des choses qui pouvaient paraître un peu curieuses ou marginales ou presque provocatrices, j'ai vu qu'elle, non seulement elle entendait, elle comprenait, mais elle m'encourageait. C'est-à-dire, pour prendre un exemple très concret, nous sommes obligés, c'est de l'argent public, donc nous sommes obligés de passer par des dispositifs techniques, donc avec des dossiers à remplir pour entrer dans telle ou telle case. Et moi, ma définition de la culture, qui n'est pas la mienne, je ne fais que l'emprunter, je la cite dans SOS Culture, ça me paraît la plus stimulante, c'est la définition de Saint John Perse, qui était à la fois un poète et en même temps un diplomate, oui, qui avait les pieds sur terre.
Mais où vont les vents, a-t-il écrit, je crois.
Et c'est le luxe de l'inaccoutumance.
Oh, voilà.
Ça veut dire luxe de l'inaccoutumance, ça veut dire l'inédit, ce qui est nouveau. Au sens où Jean Villard disait « J'ai envie de mettre en scène des pièces dont le public ne peut pas imaginer qu'elles existent. » C'est-à-dire, c'est l'imprévisible. Or, dans les politiques culturelles, on est apparemment confronté à une contradiction, puisque tout est basé sur des dispositifs techniques, il faut rentrer dans les clous. Et donc, lorsque j'ai plaidé l'idée selon laquelle il fallait admettre des demandes hors dispositif, on aurait pu me dire, mais à quoi ça sert alors de se casser la tête à... Et celle qui m'a soutenu, j'ai un souvenir précis, parce que c'était l'époque où je n'étais pas dans le groupe majoritaire. Elle m'a dit, oui, tu as raison. Donc, et là, la stratégie qu'on va présenter donc, dans 2 jours me paraît être empreinte de la conviction que la culture n'est pas marginale. Il n'en reste pas moins que, de manière générale, ce qu'on vient de dire sur la campagne pour les présidentielles atteste une fois encore que la culture est vouée à la portion congrue, que personne ne... Et malheureusement, je dois dire, pas plus à gauche qu'à droite, ne parle centralement de la question culturelle.
D'où l'inquiétude, effectivement, de certains, qui est partagée, je pense, par tous ceux qui sont dans ce studio aujourd'hui, qui sont tous des acteurs culturels. Moi, je voudrais vous poser une question qui n'a rien à voir avec la culture, mais qui m'a interpellé, j'en ai encore entendu parler ce matin. On va dans l'Aveyron, on n'est plus dans le Tarn, on va à l'usine SAM, qui travaille pour Renault, comme vous le savez, et que Renault a laissé tomber, il faut le dire, au profit de fournisseurs qui sont dans d'autres pays et qui seraient moins chers. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces dizaines de familles qui sont sur le carreau aujourd'hui, nos concitoyens, enfin, fond de l'Aveyron, là-bas, qui vont se retrouver dans des difficultés insurmontables?
Ah ben moi, ça m'inspire plus que de la colère. Plus que de la colère, c'est-à-dire ça m'atteint dans ce qui est constitutif de ma personnalité. Moi, à mon âge, je peux dire ça pendant très longtemps, surtout à la fac de droit. J'étais obligé de garder secret un certain nombre de choses parce que je pensais que c'était pas valorisant. Hein. Mais moi, j'ai été élevé entre un père communiste et une mère catholique, mystique catholique. C'est-à-dire une famille à la Don Camillo.
Oui, un peu,
et
oui.
Je sais maintenant que ce qu'ils avaient en commun, c'est... Alors, on a cité Agnès Jaoui, je l'ai dit hier à Agnès. Le goût des autres, ce qui est le titre de ces très beaux films, c'est-à-dire un souci de l'autre, et souci de l'autre, ça ne veut pas dire le souci des plus forts, évidemment. Le souci de l'autre, c'est pour un catholique ce que les catholiques appellent l'amour du prochain et ce que les autres appelleront effectivement le regard à l'égard des faibles, des dominés, des opprimés, etc. Et je trouve, dans le cas de la SAM dont on vient de parler, c'est épouvantable parce que on fait fi, encore une fois, de l'humanité. Au profit de logiques qui sont des logiques
comptables,
purement budgétaires, comptables, financières.
Sachant quand même que l'État français possède 15%, ça veut dire qu'il a la main et
bien
qu'il
sûr,
aurait pu imposer et qu'on s'est bien gardé de le faire. Je sais bien que M. Macron n'a absolument pas la fibre sociale, ça, nous le savons depuis un moment, mais là quand même, on touche le fond.
On touche le fond, mais parce qu'encore une fois, là encore citation, le marché, n'a ni conscience ni miséricorde. Et donc, sans remettre au marché, c'est envoyer l'humanité dans le mur. Et tous ces éléments, ce dont on vient de parler, par l'instant, ce sont des exemples concrets. Et je crois que si la gauche est dans un tel mauvais état aujourd'hui, c'est parce que la gauche a capitulé sur ces questions, pour moi, centrales, c'est-à-dire qu'à un moment déterminé, la gauche dite de gouvernement, mais c'est quoi le reste, a abandonné la question sociale, c'est-à-dire la question économique qui est centrale, au profit des questions sociétales. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui explique le malaise, la faiblesse, la perdition, la perte d'identité de la gauche. C'est-à-dire que les milieux populaires, sous prétexte qui se laissaient entraîner par les sirènes de l'extrême droite, ben, finalement, c'est plus la peine qu'on s'en occupe, qu'il fallait se concentrer sur les classes moyennes supérieures. Notamment un think tank comme Terra Nova a théorisé cette idée-là, selon laquelle, désormais, il fallait s'occuper des minorités, donc du féminisme, des immigrés, etc., etc. Et dont la question centrale, pour moi, qui est la question sociale et la question économique, ont été abandonnées. C'est pourquoi je dis que même ce qu'on appelle à tort l'extrême-gauche de Mélenchon, moi, j'ai lu attentivement son programme. Quand on voit quel est son programme, qui est essentiellement bâti sur ce que Marx appelle les questions de superstructure, c'est-à-dire les questions politiques, et pas sur les questions économiques, c'est là qu'on voit qu'on est dans une illusion totale. C'est-à-dire que... Alors, je sais bien que... Mais quand je vais dire ça, c'est là qu'on voit le chemin parcouru. Est-ce que Mitterrand était d'extrême-gauche? Assurément pas.
Oui, personne ne l'a jamais pensé.
Non, personne ne l'a jamais pensé. Or, le programme commun mis en œuvre par Mitterrand, ça a été quoi? Ça a été, c'est ce qu'on retient fondamentalement, les lois de nationalisation des grandes banques, des assurances et d'un certain nombre de grands groupes industriels. Est-ce que Mélenchon, vous pourriez dire même Besancenot, s'empare de cette question? Non, ils l'ont mis par pertes et profits. Et de mon point de vue, moi, dans le domaine de la culture, les vrais affrontements, ils se produisent où et quand, lorsque la question économique est posée. Le prix du livre, par exemple, ça a été une bataille fondamentale, mais qui n'est pas une bataille symbolique, qui est une bataille capitalistique, où tous les grands groupes, et à l'époque y compris, par exemple, la FNAC, étaient rigoureusement contre, pour des raisons proprement économiques, c'est-à-dire qui se lisent dans des documents comptables.
Dans des bilans, oui, absolument.
Alors qu'aujourd'hui, le plus souvent, les batailles que mène la gauche sont des batailles, effectivement, sur le terrain sociétal, qui ne mettent pas en cause la question fondamentale. Et d'ailleurs, on comprend bien pourquoi. Parce que le jour où des gens beaucoup plus compétents que moi analysent depuis longtemps, la question centrale aujourd'hui, c'est la question européenne. Or, tout le monde sait bien que l'Europe est une Europe libérale, bâtie sur des fondamentaux du marché. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça s'appelait comment au départ, à partir des traités d'Europe? Le marché commun, c'est pas l'Europe qui se présente comme ça. Et ensuite, ça devient quoi? Ça devient le marché unique. Eh bien, lorsqu'en effet, la gauche se convertit totalement à l'Europe, en disant que la nouvelle utopie, c'est l'Europe, elle se convertit dans les mêmes termes à la logique du marché.
Oui, tout à fait.
Alors, on peut l'habiller comme on veut, société d'économie de marché. Bon, tout ça, c'est du blabla. La réalité, c'est que du coup, on s'est coupé totalement les ailes en termes d'autonomie sur le terrain économique et que donc on se replie sur des questions sociétales, mais qui ne règlent pas la question fondamentale, notamment des gens qui aujourd'hui sont sur le carreau parce qu'ils ont perdu leur emploi en Aveyron.
Voilà, on a une pensée pour tout, surtout à l'approche de Noël. Merci Serge Regourd.
Merci beaucoup.
Je vais rappeler votre dernier livre, mais on sait qu'il va être suivi de beaucoup. L'ABC des acteurs et actrices du cinéma français et de la télévision, tome 1. Nous n'en sommes qu'à la lettre C, donc vous attaquez la lettre D. On va rappeler SOS Culture aux éditions indigènes, à lire absolument, parce que à partir de là, ben, vous allez pouvoir réfléchir à beaucoup, beaucoup de choses. On va faire un salut amical à celui qui est votre collègue à la fac et qui est pour moi mon camarade de radio, Jacques Viguier, et son émission Cinéma Cinéma, puisqu'il nous parle de ce bel art plusieurs fois par mois. Donc je vous renvoie à son émission et on le salue. Je sais qu'il aurait aimé être là, mais il est avec ses étudiants à la fac en train de faire passer les oraux. J'espère qu'il est indulgent. Merci beaucoup Serge Rogour d'être venu. On aura encore beaucoup de choses à évoquer parce que là on a été très large. On est parti sur le cinéma et puis on a embrassé beaucoup d'autres questions mais qui sont tout à fait fondamentales. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Tiffaine Demaine que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi d'ailleurs que tous les autres podcasts sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Adéo. The sun has left and